Les séminaires du Collège de France.
Voilà, donc vous pouvez prendre place. Nous continuons avec le séminaire, le premier séminaire de l'année. Et ben voilà, je suis extrêmement heureux, honoré, je dirais même, de recevoir ici Delphine Horwiller, qui est, comme vous le savez, une personnalité marquante de la vie intellectuelle et de contemporaine. Et qui est écrivaine et qui est rabbin, appartenant à l'organisation juive libérale Judaïsme en mouvement, issue du mouvement juif libéral de France et de l'Union libérale israélite de France, et puis qui est membre du Conseil des rabbins libéraux francophones, ainsi que directrice de la revue Ténois. Et puis c'est l'autrice de très nombreux livres qui marquent chaque fois au moment de leur parution. Je vais citer voilà un certain nombre, il y en a beaucoup, mais vous entendrez vite les sujets. Le premier, je crois que c'était « En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme ». Puis « Comment les rabbins font les enfants, sexe, transmission et identité dans le judaïsme ». Vous voyez qu'on est sur des sujets un peu litigieux, hein, en quelque sorte. « Réflexion sur la question antisémite »,« Comprendre le monde », c'est en 2020. « Le rabbin et le psychanalyste, l'exigence d'interprétation ». On est dans l'interprétation et je pense que enfin, il me semble que pour les rabbins et dans le monde juif, l'interprétation, c'est vraiment très, très important. Vivre avec nos morts. Et puis, dans les tout derniers, il n'y a pas de Hajar, monologue contre l'identité, qui est devenue une pièce de théâtre, donc à partir de Romain Gary. Delphine Horwiller est très proche de Romain Gary. Enfin, c'est quelque chose de très, très important. Et puis, comment ça va pas ? Conversation après le 7 octobre, ça c'était en 2024. Voilà, et donc le sujet d'aujourd'hui portera sur l'interprétation, et l'interprétation de la Bible, je suppose, puisque ça s'intitule « La côte d'Adam, point de suspension et autres malentendus bibliques ». Donc, merci Delphine.
Merci beaucoup. Je vais me lever alors, merci. Bonjour à tous. Je vais me mettre là, si ça vous va, debout. Bonjour à vous et... Ravie d'être ici. Je tiens à remercier d'abord William Marx et le Collège de France pour cette invitation à prendre part à son séminaire sur la lecture au parfum boisé des plaines de l'Arcadie, comme on vient de l'entendre. En fait, c'est parti le thème un peu d'une suggestion que vous m'avez fait de parler aujourd'hui de la question des malentendus bibliques, et à vrai dire, j'en ai été ravie, parce que s'il y a une chose dont je suis vraiment spécialiste, c'est du malentendu. En fait, j'ai une véritable passion pour le malentendu, qui se traduit de bien des manières, et je vais tenter maintenant de vous exposer comment, de quelle manière. En fait, je crois être une professionnelle de cette problématique, qui, à ma connaissance, n'a pas encore de chaire au Collège de France, une discipline qu'on pourrait appeler la malentendologie, et que je vous propose de créer, si vous le voulez bien. Je dois sans doute commencer par là et vous expliquer que je souffre d'une sorte de pathologie auditive, qui n'est pas physiologique, en tout cas pas encore. Je crois que j'entends à peu près bien. Je dois vous confier que tout en entendant bien, j'ai développé, et particulièrement ces dernières années, un phénomène qui s'aggrave et qui consiste à ne pas entendre le sens premier d'une phrase, mais généralement son sens caché, ou son double sens. Alors peut-être que vous trouvez que c'est amusant, mais je vous assure que dans la vie de tous les jours, en fait, c'est assez handicapant. Je m'explique, depuis des années, et beaucoup de mes amis peuvent en témoigner, j'entends très très souvent ce qu'on ne me dit pas. En fait, je capte dans la conversation des jeux de mots qui sont généralement pas volontaires, et ça crée bien souvent des conversations un peu cocasses ou parfois complètement grotesques. Je pourrais vous en donner tellement d'exemples au choix. Maintenant, je pourrais vous en donner deux, par exemple. Il y en a un que j'ai souvent raconté, mais il m'a beaucoup traumatisée. Ça s'est passé il y a quelques mois de cela. J'ai été invitée à donner une conférence à Sainte-Anne. devant un groupe de psychanalystes. C'est vraiment pas le bon public pour parler de malentendus, parce qu'ils sont très nombreux à avoir la même pathologie que moi. Toujours est-il que ce jour-là, le métro ne fonctionnait pas bien, et donc j'ai compris que j'allais être en retard à l'heure de cette conférence. J'ai appelé l'organisateur pour lui demander d'excuser mon retard, et il m'a répondu « Pas de problème, tu seras là quand ?» Et évidemment, je suis restée assez dubitative. Et je lui ai dit non, je préfère rester moi-même. Voilà, autre illustration, encore plus grotesque, mais véridique, pas plus tard que cette semaine. J'étais chez moi et j'ai vu un reportage sur l'explosion terrible du port de Beyrouth en 2020, mais j'écoutais d'une oreille complètement distraite, et soudain le reporter a dit, véridique, « Tous les ports sont détruits ». Et j'ai sursauté parce que non, par définition, tous les ports ne sont pas détruits. Mais là, vous vous dites, mince, on est venu à une conférence donnée par la réincarnation de Raymond Devos, peut-être, qui serait venu hanter les couloirs du Collège de France. Alors rassurez-vous, ce n'est pas le cas, même si je pense que peut-être lui aussi souffrait, était atteint d'une pathologie un peu similaire, une fâcheuse tendance à entendre ce qui n'est pas dit, et soudain à ne plus entendre ce qui est assez simplement énoncé. Avec le temps, je me rends compte que cette pathologie qu'on pourrait appeler la malentendite est en fait pour moi une forme de déformation professionnelle. Dans mon métier de rabbin, c'est peut-être commun de ce point de vue-là avec le métier de psychanalyste, et pas que, et avec d'autres expertises aussi, il se trouve que j'aiguise constamment mon oreille et je l'habitue à entendre comme un au-delà des mots, un au-delà du texte. D'ailleurs, que ce soit un texte écrit ou oral, j'y reviendrai. Mais de façon plus générale, cette idée d'un malentendu dans l'écoute est extrêmement centrale dans la tradition juive. En fait, cette idée se trouve partout, décliné partout, pas juste dans l'interprétation des textes, mais aussi dans une certaine culture de la parole, du rapport au langage. C'est même aussi extrêmement présent dans l'humour juif. Voilà, vous le savez sans doute, la plupart des blagues juives, en tout cas un bon nombre de blagues juives, ont recours au jeu de mots, à la force du malentendu. On croit qu'on est en train de dire un truc, mais en fait, on dit autre chose. Et cet décalage de sens est là où s'infiltre l'éclat de rire. C'est ce qui suscite le rire. Popek, que vous connaissez peut-être, le résume très bien. Il dit, par exemple, qu'une blague juive, c'est une blague à double sens qu'on ne comprend qu'à moitié. Et en fait, c'est assez juste, c'est une bonne définition de cet humour. À nouveau, je pourrais vous en donner 1000 exemples, mais je suis pas sûre qu'on m'ait invité pour donner un cours d'humour juif. Mais pourquoi pas, hein, après tout. Juste une pour la route, une blague hyper connue, je suis sûre que la plupart d'entre vous la connaissent, c'est l'histoire d'un très vieux couple, on va les appeler Moshe et Sarah. Sarah dit à Moshe, on est mariés depuis 40 ans, dis-moi, pourquoi tu m'as jamais rien acheté ? Et Moshe lui répond, je savais pas que t'avais quelque chose à vendre. Et ça, c'est une belle illustration de la problématique du malentendu. Mais évidemment, dans la tradition juive, cette culture de l'humour, vous le comprenez, n'est qu'un dérivé d'un rapport beaucoup plus large au langage, à la lecture et au texte. Le cœur de la pensée juive est une culture de l'exégèse. Et l'exégèse exige, c'est pas facile à dire, l'exégèse exige toujours qu'il y ait des possibilités plurielles de lecture, en fait des sens à découvrir et du cachet dans un texte qui reste à être décrypté. En fait, le texte est supposé n'avoir jamais fini de dire. Il contient ce qu'il pourrait encore dire et se prête encore et encore à des renouveaux de sens, à de l'interprétation. Cette culture, en fait, se nourrit de la langue elle-même, de l'hébreu. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des hébraïsans, mais il y a une particularité de cette langue qui est assez extrême dans cette langue, vous le savez peut-être, c'est qu'elle est tout à fait polysémique. Chaque mot, chaque racine en hébreu signifie quelque chose, et puis autre chose, et parfois le contraire de cette première chose, selon la façon dont on vocalise un terme, ou simplement selon un contexte, eh bien le sens va radicalement changer. 1000 exemples de ça. Je sais pas, par exemple, il y a un mot très célèbre en hébreu, kadosh, vous connaissez peut-être ce mot, ça veut dire saint. Au féminin, ça donne kedosha. Oui, mais voilà, au choix, kedosha, ça peut vouloir dire une femme sainte ou une prostituée. Vous voyez, ça dépend juste du contexte. Et en fait, c'est valable pour beaucoup d'autres mots, presque pour tous les mots. Les exemples de polysémie en hébreu sont totalement infinis. Prenez un mot, un mot célébrissime qui existe aussi en français, puisque c'est de l'hébreu, mais qu'on ne sait pas le traduire, donc on l'a gardé tel quel en français. Le mot « amen ». Tout le monde le connaît. Amen, c'est ce qui ponctue les prières, c'est ce qui ponctue la liturgie. Cette racine du mot amen, eh bien, selon sa vocalisation, peut signifier des choses très, très, très différentes. Par exemple, si je vocalise ces lettres du mot amen en disant amin, vous savez que en hébreu, par exemple, dans la Torah, dans la Bible, il n'y a pas de voyelle, donc je peux vocaliser comme je veux un terme. Amin, ça veut dire la fiabilité ou la fidélité. Mais je peux vocaliser ce terme en disant « omen », ce qui veut dire un tuteur ou une nourrice, ou encore « oman », ce qui veut dire un artiste, mais « amen », c'est un coach sportif, rien à voir. Mais tout ça, en hébreu, c'est exactement le même mot. Ça s'écrit de la même manière. Donc, quand vous lisez une phrase et qu'apparaît tout à coup ce mot, amen, en trois lettres en hébreu. Allez donc savoir si la personne qui écrit est en train de vous dire que sa parole est fiable, qu'il est un artiste, ou qu'il envisage d'aller à la salle de sport. Vous n'avez aucune indication. En fait, j'exagère à peine, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le sens multiple que porte chaque terme exige du lecteur en permanence de faire preuve soit de créativité, soit constamment d'opérer des arbitrages. En prenant en compte un contexte, évidemment, un contexte de lecture, mais aussi le contexte temporel de l'écriture d'un verset. J'ai l'habitude de dire souvent cette phrase, certes un peu idiote, mais qui illustre bien mon propos. Si tu lis en hébreu un texte sans son contexte, t'es juste un con face à ton texte. Mais de fait, l'hébreu produit une quintessence de sens multiples et fait donc vite comprendre à tout lecteur qu'il n'a aucune chance, ou presque, de connaître vraiment l'intention de l'auteur. Tout lecteur doit accepter humblement qu'il est probablement victime d'un malentendu, ou de ce qu'on devrait plutôt appeler peut-être un mal lu. Une lecture qui ne sera pas amine, qui ne sera pas fiable ou fidèle à l'intention de l'auteur, puisque tous les mots utilisés par l'auteur tolèrent, ou même parfois appellent, à d'autres lectures. Vous me suivez ? C'est ce que Lévinas, par exemple, a très bien résumé d'une formule devenue assez célèbre lorsqu'il a écrit « Le pouvoir dire du texte est toujours beaucoup plus grand que son vouloir dire. » Le pouvoir dire du texte est plus grand que son vouloir dire. Et c'est vrai de tout texte, mais particulièrement d'un texte écrit en hébreu. Il peut dire quelque chose qui est toujours plus grand, évidemment, que ce que son auteur supposait ou même ce que des lecteurs passés ont voulu qu'il dise. Il y a toujours un au-delà de ce qu'il a déjà dit. D'ailleurs, en hébreu, le mot « lecture » lui-même se dit « kriya » et c'est un terme qui lui-même a un double sens, une polysémie, et signifie littéralement le fait d'appeler, le fait d'interpeller. C'est exactement le même mot en hébreu. Donc, la lecture, étymologiquement, c'est le contraire d'une action silencieuse, le contraire d'une activité qu'on ferait dans sa tête. C'est comme si toute lecture en hébreu était d'abord faite pour être énoncée, pour appeler quelqu'un, pour dire à voix haute et surtout pas en silence, c'est-à-dire pour être entendu par quelqu'un d'autre qui pourra bien entendre ou mal entendre. Et en fait, en hébreu, je pourrais le dire comme ça, on lit toujours avec les oreilles, beaucoup plus qu'avec les yeux. Si vous avez déjà assisté un jour dans votre vie à un office, dans une synagogue, vous le savez peut-être, la Torah, la Bible, elle est lue dans les offices à voix haute, depuis un rouleau que les fidèles ne voient pas. Ils n'ont absolument pas devant les yeux le texte. Le parchemin est lu, mais eux se contentent de l'écouter, et donc ils peuvent tout à fait souffrir, eux aussi, de la même malentendite que la mienne, entendre quelque chose de très différent de ce qui est écrit. Tout cela m'amène à tenter de dissiper un des plus grands malentendus concernant ma tradition religieuse. On dit parfois, vous le savez, que le peuple juif est le peuple du livre, mais en fait, c'est faux. On pourrait dire plutôt que c'est le peuple de la lecture du livre, ou pour utiliser les termes d'Armand Abécassis, dire que c'est le peuple de l'interprétation du livre, ce qui n'est pas la même chose. Je vais essayer de vous l'illustrer maintenant par un souvenir personnel. Il y a quelques années, c'était mon tout premier jour à l'école rabbinique, le jour de la rentrée au séminaire rabbinique de New York. Et ce jour-là, je suivais mon premier cours d'exégèse biblique. Et se tenait devant nous, les enseignants, un célèbre rabbin très orthodoxe de New York. L'enseignant, je suppose qu'il cherchait à nous choquer en ce premier jour de classe. Il a prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais. Il a dit: les Juifs n'ont jamais pris la Bible très au sérieux. Et là, on s'est tous regardés, totalement ahuris et consternés. Et je crois qu'il nous a fallu un certain temps pour comprendre à quel point ce rabbin, avec un certain goût de la provocation sans doute, avait en fait dit quelque chose de très vrai. Les Juifs lisent la Bible de façon très infidèle. Et en fait, ils ont une fâcheuse tendance à ne jamais accepter son sens littéral comme une vérité. Il y a de très 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 nombreuses injonctions bibliques qui ne sont pas du tout prises au sérieux. Je peux vous en donner 1000 exemples. Vous voyez par exemple une très très célèbre exemple dans la Bible, figure un verset célébrissime, la loi du talion que vous connaissez tous, œil pour œil, dent pour dent. A priori, c'est difficile quand on lit ce verset de le comprendre autrement que si tu m'arraches un œil, je t'arrache un œil, et si tu me pètes une dent, j'espère que t'as un bon dentiste. Mais en fait, pas du tout. Les rabbins insistent et disent, tous et à toutes les époques, que le sens littéral du verset n'est pas du tout celui-là, et en fait correspond à une réalité économique. Selon eux, c'est l'histoire d'un dédommagement d'un œil pour un œil, d'un dédommagement d'une dent pour une dent. De leur point de vue, ce verset, c'est simplement une invitation à penser la compensation financière en cas de litige. On est donc très 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 loin, vous le voyez, de ce qui est écrit, de ce qui semble être écrit. Et c'est vrai pour plein d'autres versets. Par exemple, dans la Bible, il est écrit, au choix, parmi les moments sympathiques de la littérature biblique, il est écrit qu'on peut lapider une femme adultère, zigouiller son voisin s'il commet un blasphème, ou fait cuire dans son jardin des saucisses de porc. Mais évidemment, les rabbins n'ont absolument jamais envisagé d'appliquer ces versets. Ils se sont toujours débrouillés pour les rendre non pertinents ou inoffensifs, pour faire qu'ils ne soient en aucune manière applicables. Leur interprétation a donc créé ce qu'on doit appeler des lectures très infidèles, qui font semblant d'être des lectures littérales du texte. Bref, ils acceptent toujours de lire autre chose que ce qui est écrit en lecteur infidèle. Autre très célèbre exemple de cela, c'est un passage biblique que certains parmi vous connaissent peut-être, que moi j'adore. C'est un passage qu'on appelle parfois l'épisode du fils rebelle. La Bible raconte la chose suivante. Elle dit, si tu as un fils qui est glouton, fainéant, qui boit trop et qui n'écoute pas la voix de ses parents, tu l'emmèneras devant les anciens de la ville et tous ensemble, Ils le lapideront et il mourra. Perspective très sympathique pour tous les parents d'adolescents, il y en a peut-être parmi vous, qui sont témoins de la flemme désespérante de leur progéniture et se demandent comment gérer cette tension familiale. Alors la Bible a pour vous une solution pédagogique assez radicale, mais efficace. Problème, les rabbins dans le Talmud vont tout simplement rendre l'exécution de cette peine impraticable. Et pour cela, ils vont utiliser notamment un terme du verset que je viens de vous lire. Ils constatent que dans le verset, dans la Bible, il est écrit que cet adolescent n'écoute pas la voix de ses parents. Et à partir de ce « la voix », c'est-à-dire d'un terme au singulier, les sages ont conclu que pour exécuter cette peine capitale, il faudrait que les deux parents de l'adolescent soient capables de parler avec la même voix. Et pour ça, il faudrait qu'ils aient la même taille, le même poids et la même apparence physique. Bref, en conclut-il, ça ne s'est jamais passé. Ça ne se passera jamais et on ne pourra donc jamais se débarrasser de son fils rebelle. Voilà, vous avez là une sorte d'aperçu de culot exégétique, une façon de dire au texte « Je me fiche complètement de ce que tu suggères et moi j'interprète tes mots ou ta loi autrement. » La possibilité du malentendu permet de recourir au mal lu. J'imagine que ce que je dis maintenant fait peut-être bondir certains parmi vous qui pourraient me donner 1000 contre-exemples à cela, à tout ce que je viens d'affirmer. Et de fait, il y a aussi beaucoup de versets dans la Bible que les gens prennent très au sérieux et qui sont pas du tout prêts à interpréter autrement que dans leur pleine littéralité. L'interdit de voler, de convoiter la femme de son prochain, les règles alimentaires pour certains, les interdits sexuels pour d'autres. Pour le dire autrement, il y a dans les textes sacrés des versets qu'on suit littéralement en disant qu'on les suit parce que c'est écrit, et puis d'autres versets qui, bien qu'ils soient écrits, ne sont pas ou n'ont jamais été suivis. Débrouillez-vous avec cette étrange incohérence. C'est un débat très intéressant, je vous invite à y réfléchir un instant, c'est un débat très intéressant à avoir avec des gens, juifs ou non-juifs bien sûr, avec tout plein de gens qui disent être des lecteurs littéralistes et qui convoquent très souvent le texte sacré et son sens premier, des gens qui vous disent qu'ils suivent à la lettre des injonctions bibliques, qui disent par exemple qu'ils condamnent l'homosexualité parce que la Bible dit que c'est une abomination. C'est toujours intéressant de leur rappeler que la Bible dit plein d'autres choses qu'ils n'ont aucun problème à rejeter. Et les inviter ainsi à s'interroger sur ce qui fait que ces versets-là, et pas d'autres, sont à leurs yeux inviolables ou imprescriptibles. En fait, il n'y a pas une réponse unique à cela, mais une idée que j'aimerais développer maintenant avec vous. Ce qui détermine souvent la fidélité à un texte, n'est jamais tant ce que le texte dit ou ce qui y est écrit que ce que des lecteurs lui ont fait dire, ce qu'ils ont choisi avant nous d'y retenir et donc ce qui nous engage, nous, dans leur lecture. Pour le dire un peu autrement, notre lecture n'est jamais autant tributaire de ce que le texte veut dire que de ce qu'on a choisi d'y lire et de transmettre. Notre lecture, elle est toujours héritière de lectures passées, beaucoup plus que des intentions premières de l'auteur du texte. Alors, je suis consciente que ce que je viens de dire là est peut-être un peu flou ou complexe, alors je vais maintenant essayer de le développer grâce à un exemple que j'avais promis de traiter aujourd'hui et qui est dans le titre de mon intervention. Je vais essayer de tenir parole et évoquer avec vous la célébrissime histoire de la côte d'Adam. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, roulement de tambour. J'ai traité de ce thème, de la côte d'Adam, il y a longtemps, dans un de mes livres, effectivement, auquel vous avez fait référence, qui s'appelait « En tenue d'Ève » et qui a été publié en 2013. Puisqu'on parle de malentendus, laissez-moi partager avec vous que le titre de ce livre a suscité pas mal de malentendus, parce que pendant toute la promotion du livre en 2013, dans chaque salon du livre où j'étais invitée, arrivait toujours un moment où les organisateurs annonçaient dans le micro « Chers amis, dans quelques minutes, Delphine Horviller dédicacera son nouveau livre en tenue d'Ève. » Il y avait un monde fou. Mais c'était assez pénible. Bref, dans cet ouvrage, je me suis intéressée à ce gigantesque, notamment à ce gigantesque malentendu de la Genèse, dont je crois qu'on continue à payer très très cher le contresens. Parce que vous le savez, en français, quand il y a un problème insoluble, quand il y a une situation difficile, qu'on ne parvient pas à démêler, bien souvent on dit « Ouh là là, il y a comme un os ». Eh bien, figurez-vous, mesdames, que dans la Bible, c'est nous. Pour comprendre cet épisode, en fait, il faut un instant, un court instant, faire un détour par le récit populaire de cet épisode biblique, celui qui sans doute a intégré tant et tant de conscience comme une sorte de légende fondatrice de notre civilisation. Beaucoup de gens, énormément de gens, pensent que dans la Bible, l'humanité est ainsi créée. Un homme apparaît au masculin. Et Dieu décide un jour de pratiquer sur lui une opération chirurgicale assez surprenante et rare, de lui découper une côte, quick, 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 pour construire une femme qui surgit donc dans le texte à partir d'un os masculin. Ça, c'est la version ultra populaire, connue, ce qu'on pourrait peut-être appeler la version hollywoodienne de cet épisode biblique. Mais quand on relit le texte avec honnêteté et sincérité, quand on se penche dans la Bible, on découvre autre chose, une version moins connue, certes, ce qu'on pourrait appeler la version cinéma indépendant, plus intimiste, un secret bien gardé que nous pouvons maintenant révéler, puisque nous sommes entre nous le secret de la côte d'Adam. Alors voilà, tout commence dans le chapitre 1 de la Genèse. Rappelez-vous, Bereshit, au commencement, Dieu crée le monde, il le crée en 6 jours, le ciel et la terre, les astres, les mers, les végétaux. Au 6e jour, il crée les grenouilles, les chameaux, les orangs-outans, les porcs, les truies, tout le reste. Mais finalement, en fin de journée, en toute fin de journée, une humanité est créée sous les traits d'une personne qu'on appelle dans le récit Adam, ou en français Adam, qui signifie l'être humain. Mais attention, le texte est très clair. Cet être humain, Adam, n'est ni homme ni femme. C'est un humain. Et la preuve, verset 27 du chapitre 1 de la Genèse l'énonce ainsi, « Dieu créa Adam à son image ». Zachar ou Nekeva bara otam, il les créa masculin et féminin. C'est un verset très étrange à plusieurs titres. D'abord, l'homme est créé à l'image d'un Dieu qui, je vous le rappelle, n'a pas d'image. Par ailleurs, il n'est pas créé comme un mâle, comme un garçon, comme un être viril, mais de façon qu'on pourrait définir comme bigenré. Le premier être humain, selon la Genèse, est masculin et féminin. Absolument pas homme et femme, puisque Zachar et Nekeva en hébreu ne signifient jamais homme et femme, mais toujours masculin, féminin. Donc traduction pour les sages, les commentateurs, l'humanité première est peut-être ce qu'on appellerait aujourd'hui une formule bigenrée, ou peut-être, qui sait, c'est ce que disent les kabbalistes, un être hermaphrodite qui existe au départ dans ces deux genres. Et c'est seulement plus tard, saut dans le temps, on arrive au chapitre 2 de la Genèse, qu'une autre histoire nous est racontée. Au chapitre 2, il nous est dit que Dieu, soudain, se dit « Il n'est pas bon pour Adam, pour l'humanité, d'être seul. Je vais construire, dit l'hébreu, une aide contre lui. » Je m'arrête un instant pour que vous perceviez à quel point cette phrase aussi est difficilement compréhensible. L'humanité bigenrée est à ce stade dans un état de solitude particulière et Dieu décide de créer une altérité qui permettra à cette humanité d'avoir une sorte d'alter ego face à lui, une aide contre lui, la possibilité d'un face-à-face. Et c'est là, chapitre 2 donc, qu'intervient une toute Première, intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Le texte le dit ainsi, Dieu fit peser une torpeur sur l'humain et il prit une tsela. Volontairement, je ne traduis pas maintenant ce terme hébraïque. Il prit une tsela, vaiven tsela asher lakar min adam leisha, et il modela cette tsela prise de l'humain en une femme. Je résume donc pour ceux qui auraient perdu le déroulé. Dieu prélève de l'humanité première bigenrée un petit bout de quelque chose qui s'appelle tsela, qu'on traduit difficilement, et il le sculpte en une femme. C'est la première fois que le mot femme apparaît dans la Bible. Mais je vous le rappelle, le mot homme, avec un petit h, à ce stade, n'est pas encore apparu, lui. Mais figurez-vous qu'au verset suivant, il est écrit, il présenta cette femme à Adam et celui-ci dit, ah, elle s'appellera femme car elle a été coupée d'un homme. Je résume, étape par étape, le déroulé de ce film si mal connu. Au commencement, il y a une humanité bigenrée qui se définit au masculin et au féminin. C'est seulement ensuite qu'est formée une femme à partir de cette humanité première et lorsque cette femme fait face à l'homme avec un grand H, il peut alors commencer à parler de lui-même au masculin comme un homme avec un petit H. Pour le dire encore autrement, il n'y a absolument pas au début un homme et ensuite une femme créée à partir de cet homme. Non. Il y a au début une humanité masculine et féminine qui, lorsque la femme paraît, permet à l'homme, qui se sait amputé de quelque chose, de se tenir face à elle pour entrer en relation. En fait, la Genèse raconte une histoire qui est relativement aux antipodes de ce qu'en dit la culture populaire. L'homme ne précède pas la femme, mais c'est la femme qui apparaît d'abord et permet à l'humanité de parler au masculin. Bon, vous en doutez bien, les lecteurs et les interprétations, pendant longtemps, ne sont pas allés dans ce sens de tout ce que je viens de vous dire maintenant. Pourquoi ? Petit indice, peut-être parce que pendant très longtemps, les interprétations ont été faites exclusivement par des hommes. Mais ce n'est pas tout, il faut maintenant nous intéresser à ce fameux mot que j'ai refusé de traduire. Ce mot en hébreu, tsela, vous pouvez vérifier dans la plupart des Bibles, évidemment, ce mot est traduit comme une côte, comme un os de soutien. Si vous ouvrez la plupart des Bibles en français, vous verrez que ce verset, le verset 22, chapitre 2, 22 de la Genèse, « Vayeven et tsela, asher lakar min ha'adam leisha » est traduit ainsi, « L'Éternel sculpta la côte qu'il avait prise à l'homme pour en faire une femme ». Le problème, c'est que ce mot « tsela » en hébreu peut vouloir dire « côte », bien sûr, mais « glups ». Partout ailleurs, lorsqu'il apparaît dans la Bible, il n'est pas traduit ainsi. Partout ailleurs dans la Bible, quand il apparaît, il est traduit par « côté ». Côté, c'est-à-dire « paroi ». Bon, il y a plein d'autres exemples de cela dans la Bible. La traduction la plus évidente du verset que je vous ai lu il y a un instant dû, donc aurait pu être, l'Éternel façonna le côté d'Adam en une femme, juste à côté. Un côté de l'humain et pas une côte tirée de l'humain. Et vous percevez tous, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, à quel point à un accent circonflexe près, la différence est fondamentale. C'est ce qu'on pourrait appeler un sacré os dans l'histoire qui nous reste un peu en travers de la gorge. Parce que soit la première femme est tirée d'une côte, c'est-à-dire qu'elle est un élément secondaire, comme un bout d'os qui soutient un masculin premier, avec qui elle entretient par essence un rapport d'objet à sujet, de second par rapport à premier, de minéral par rapport à pleinement humain. Soit la première femme apparaît à côté d'Adam dans un rapport possible de face à face, d'égal à égal, de sujet à sujet, qui permet un dialogue complémentaire face à soi. Je vous laisse prendre une respiration, mesurer l'abîme de cette lecture et percevoir le vertige que crée ce que nous venons de dire. Imaginez juste un instant à quoi ressemblerait notre civilisation et notre monde si, dès le départ, on avait accepté de traduire ce verset autrement, et si le féminin s'était érigé aux côtés du masculin, et pas comme un bout dérivé de son squelette. Une fois dit cela, une fois passé ce premier vertige, en fait, vous le savez, bien d'autres questions surgissent, qu'il faut oser affronter. La première, elle est assez simple à résoudre. Qui en a décidé ainsi ? Bon, à nouveau, je ne vous apprends rien en vous disant que la Bible a été commentée, lue, interprétée de façon presque exclusivement par des hommes à travers les siècles, et que sans doute les consciences de ces interprètes n'avaient pas à cœur, ou peut-être n'avaient pas l'imagination ou l'idée de bouleverser cet héritage de lecture au profit d'une autre fidélité au texte. Mais en fait, l'autre vraie question qui est posée au lecteur, conscient de ces doubles sens du texte, c'est de savoir ce que l'on fait dorénavant de ce savoir. Si vous savez que le texte aurait pu être lu autrement, si vous savez qu'il aurait pu donner naissance à une autre réalité, qu'elle soit politique ou civilisationnelle, que faites-vous de cette information ? Évidemment, plusieurs chemins s'ouvrent à vous. On va dire à minima trois possibilités. Le premier, c'est le chemin du conservatisme. C'est la voie de celui qui dit « bon, désolé ». On a toujours lu ce texte comme ça, on n'y peut rien, on ne va pas faire du passé table rase, on ne va pas se débarrasser du monde qui nous a donné naissance. Après tout, le monde s'est construit avant nous, sur cette lecture, à partir de cette lecture. Et bon, c'est comme ça. Certes, il peut s'agir d'une forme de malentendu, mais on va faire avec. Et transmettre à notre tour ce qui nous a été transmis, peut-être au nom de la fidélité ou de la stabilité d'un système. Car qui sommes-nous pour changer une tradition immuable qui, après tout, a peut-être une raison d'être qui nous échappe, peut-être que Dieu en a voulu ainsi, peut-être que des hommes importants avant nous en ont voulu ainsi, et ainsi soit-il. Le second chemin, c'est ce qu'on pourrait appeler la voie du réformateur, ou peut-être la voie du rebelle. Le rebelle a généralement recours à une forme de colère, qu'elle soit sage ou exagérée, et cette personne-là aura tendance à dire, peut-être plus poliment que cela, « allez tous vous faire voir », c'est-à-dire dire « je ne veux plus rien avoir à faire avec cet héritage, jetons le bébé avec l'eau du bain, envoyons bouler complètement une tradition patriarcale, misogyne, interdisons dorénavant la lecture de la Bible. Rêvons d'un autre monde où la terre serait ronde et la lune serait blonde, enfin vous connaissez la suite ». Mais quitte à vous engager sur ce chemin, vous le savez, il vous faudra alors envisager de déboulonner d'autres statuts, évidemment, de vous débarrasser de bien d'autres ancrages littéraires, civilisationnels. On n'a pas besoin de réengager cette conversation, mais vous le savez, de ce point de vue, exit Carmen et son féminicide, out la petite sirène et sa censure de la voix féminine sous l'eau, dégageons la belle au bois dormant et sa culture du viol, etc., etc. Pourquoi pas ? Mais ça va certes alléger considérablement nos bibliothèques, il ne va plus rester grand-chose à lire. Ça implique un certain autodafé des contes de notre enfance, une censure de pans entiers de la littérature classique. Je ris parce que je pense en cet instant à une de mes filles qui est une lycéenne brillante, ultra-féministe, qui est rentrée de l'école il n'y a pas tellement longtemps. Elle sortait d'un cours de français. Elle devait lire, je ne sais plus quel classique de littérature, et elle a déboulé chez nous en hurlant, et elle a balancé son livre à la poubelle. Et elle m'a dit, elle a sorti cette réplique pour moi inoubliable, elle m'a dit « j'en ai ras-le-bol de votre littérature machiste et hétéronormée ». Alors j'ai essayé de creuser, et elle m'a dit qu'elle ne supportait plus que dans la plupart des livres que l'Éducation nationale valide, l'héroïne tombe systématiquement amoureuse du sale type du récit, macho, abusif et un peu idiot, qu'il ignore, tandis que le personnage féminin ne s'intéresse jamais à l'homme sympathique et bienveillant du récit, présenté comme sexuellement inintéressant. Alors, j'avais pas grand-chose à lui répondre, à part engager avec elle une réflexion sur la troisième voie, qui n'est ni le conservatisme, ni la rébellion peut-être, qui est celle qu'on pourrait peut-être appeler le chemin du lecteur critique. C'est-à-dire une façon de prendre en compte nos héritages, de reconnaître que nous sommes les produits des lectures passées, que ça nous plaise ou non, mais qu'il nous est donné, à la lumière d'un contexte nouveau, de relire, c'est-à-dire de relier les temps de l'histoire en prenant en compte de nouvelles sensibilités de lecteur. Le pouvoir dire du texte n'efface ni complètement son vouloir dire, ni complètement ce qu'on lui a fait dire, mais la relecture permet d'agrandir un peu les choses, d'apporter comme de l'oxygène bénéfique à tous dans la lecture. Et c'est à cela que, personnellement, j'essaie de travailler dans mon rapport au texte aujourd'hui, penser cette question. Vous l'avez forcément compris, c'est interroger plus largement ce que signifie d'être un héritier. Qu'est-ce qui fait de nous des héritiers de nos parents, de nos familles, de nos cultures, de nos langages, de nos traditions, de nos systèmes de croyances? C'est sûrement pas un immobilisme ou un conservatisme absolu du système qui nous a vu naître, mais toujours une certaine façon de le revisiter, de le relire. Et cette notion de relecture, elle m'est chère parce qu'elle est, je crois, le sens précis de ce que Cicéron donne au mot de religion. Vous connaissez sans doute cette double étymologie latine du mot religion. Certains disent que ça vient de religare ou de religere. Certains penseurs considèrent que la religion est ce qui relie les hommes. Mais Cicéron suggère qu'elle est aussi ce qui permet de relire, d'opérer des relectures du monde. J'aime l'idée que l'engagement religieux puisse être cette invitation à relire nos livres, c'est-à-dire à ne jamais lire deux fois de la même manière. Vous en doutez, le lecteur fondamentaliste, toute religion confondue, ne peut pas adhérer à ce principe. Parce que le conservatisme dont il se revendique cherche toujours à dire d'une manière ou d'une autre que tout a déjà été dit, qu'aucun renouveau de sens n'est ou ne sera possible parce qu'il est interdit de lire autrement. Et je crois, j'ai la conviction, que combattre les pensées fondamentalistes oblige à toujours pouvoir défendre la nécessité d'une autre lecture. J'avoue que je suis heureuse de vous en parler aujourd'hui, en cette date anniversaire, semaine d'anniversaire douloureux pour tant d'entre nous, des 10 ans des attentats de janvier 2015. Ces événements nous obligent à penser dans nos sociétés notre rapport aux faits religieux, à interroger les limites de nos tolérances face à l'intolérance, les limites de notre tolérance à des lectures haineuses ou monolithiques. Nous avons une responsabilité dans le combat contre ceux qui voudraient réduire leur lecture à leur vérité et l'imposer à tous. Le même rabbin qui, au séminaire rabbinique, au premier jour, nous enseignait que les Juifs n'ont jamais pris la Bible au sérieux, nous a dit un jour autre chose, une autre phrase, que je n'oublierai jamais. Il a dit que chaque fois que face à lui, dans une conversation, quelqu'un lui dit « La Torah dit que, le Coran affirme que, l'Évangile pense que », il interrompt immédiatement la conversation et il demande tout de suite à son interlocuteur « La Torah interprétée par qui ? À quelle époque ? Le Coran lu dans quel contexte ? Avec quel projet politique ? L'Évangile utilisé par quel lecteur ? Dans quel contexte socio-culturel ? En fait, vous le voyez, le texte ne se laisse jamais réduire à un seul sens, à une seule lecture. Comme le dit un de mes maîtres, le rabbin Marc-Alain Waknin, réduire le texte à l'un de ses sens, c'est le condamner à l'indécence. Vous le voyez, je ne suis pas la seule à vivre avec le fantôme de Raymond Devos. Il visite beaucoup d'entre nous et j'aime particulièrement l'idée qu'il puisse hanter aujourd'hui le Collège de France et prendre part à la conversation qui s'amorce. Merci à vous.
Merci beaucoup, chère Delphine Horviller, pour cette magnifique conférence, qui est un véritable événement. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaire de malentendologie que nous allons essayer de créer, effectivement, qui est effectivement tout à fait requise. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, alors en dehors de Voilà, l'humour qui n'est pas simplement en fait un détail du propos, mais qui fait partie en vérité de la forme même de cette pensée du malentendu et du double entendre et de la diversité des sens. Je crois que l'humour est en fait une forme de pensée en fait également. Je crois que c'est un peu ça que vous avez essayé de dire. C'est qu'en vous invitant, je voulais pas seulement. Nous avons des ici, je veux dire, au collège, nous avons une chaire d'études bibliques tenue par Thomas Römer sur l'histoire de la Bible. Mais votre propos est différent. Vous êtes, j'allais dire, une actrice du sens. C'est-à-dire que vous avez une fonction de direction spirituelle, religieuse, enfin de donner un sens à la vie de fidèles ou de gens qui sont dans une communauté ou en dehors même de cette communauté. Et que le discours que vous portez veut être un discours efficace. Et donc, c'est ça qui me paraît intéressant. C'est comment, en fait, vous donnez au sens, vous faites du sens, en fait, une arme, mais une arme contre d'autres sens possibles. Et la question, c'est, au bout du compte, vous-même, est-ce que vous acceptez d'être mal comprise, d'être mal entendue? Parce qu'au bout du compte, quand on dit qu'il y a une pluralité de sens, à partir du moment-là, où ça s'arrête? Je veux dire, par exemple, si dans la tradition, on avait toujours dit ce qui était passionnant, ce que vous avez dit, à savoir, Ève a été créée à côté d'Adam, et non pas à partir de sa côte, à ce moment-là, pourquoi être dans un monde parallèle qui n'existe pas. Une Delphine Horviller autre, bis, dirait, ah mais non, mais en fait, c'est la côte, et c'est pas le côté. Oui. Qu'est-ce qui va permettre de dire que l'une serait meilleure ou devrait se substituer à l'autre ou ne pas se substituer à l'autre?
Vous avez raison, absolument rien, en fait. Mais par définition, prendre la parole, c'est toujours accepter l'idée que vous allez être compris et mal compris simultanément. Vous évoquiez la question de l'humour, je disais tout de suite qu'un des piliers de l'humour et des blagues juives, c'est le malentendu du langage. Mais il y a deux autres piliers très forts dans l'humour juif. C'est se moquer du sacré. Ça, c'est très propre à l'humour juif. Une forme de cultiver une forme de blasphème, se moquer de Dieu et du sacré. Mais plus que tout, une forme d'autodérision très, très, très forte. C'est-à-dire se moquer de soi. Vous le savez sans doute, je vous apprends rien en vous disant ça. Très souvent, les blagues juives, c'est des blagues antisémites racontées par les juifs, mais mieux que les antisémites ne le feraient. Et tout ça, c'est une façon d'essayer de pouvoir rire de soi, c'est-à-dire reconnaître que il y a une absurdité à définir ces vérités et à les énoncer comme étant uniques. Moi, je me rends compte qu'au cœur de mon métier de rabbin, une fonction importante, c'est une fonction de passage, c'est-à-dire que les gens viennent à moi, me racontent une histoire, et très souvent, je suis pas là pour leur dire ce qu'ils ne savaient pas. Je suis là pour leur retraduire dans une autre langue, très souvent, ce qu'ils m'ont dit. Et ça m'est arrivé mille fois, je l'ai raconté, certains de ces épisodes, je les ai racontés dans des livres, notamment dans Vivre avec nos morts, où j'explique comment j'accompagne souvent des personnes dans le deuil. Je construis avec eux une cérémonie pour leur aimer, leurs êtres chers, et je suis consciente que ce que je dis dans ces moments-là, ce que j'enseigne, n'est que ce qu'ils m'ont dit, mais que je répète autrement pour qu'ils puissent l'entendre. Je suis sûre que c'est quelque chose dont vous avez tous fait l'expérience. En fait, la plus grande distance au monde qui soit n'est pas la distance entre la Terre et la Lune ou la planète Mars, c'est la distance entre votre bouche et votre oreille. Très souvent, vous dites des choses, mais vous ne les entendez pas. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un face à vous qui les traduise ou les énonce d'une autre manière, crée ce petit décalage de sens qui fait que vous allez les entendre différemment. Quant à répondre à votre question sur accepter d'être malentendu, en fait, pour ne rien vous cacher, je ne fais que ça et j'en fais constamment l'expérience. Je perçois à quel point des gens ont entendu dans ma voix des choses que je n'ai pas dites. C'est peut-être un phénomène que la psychanalyse appellerait un phénomène de transfert ou de contre-transfert, je ne sais pas. Mais ça m'arrive constamment. Je vais vous donner quelques exemples. Je croise très souvent des gens dans la rue qui m'arrêtent et qui me disent « Ah, grâce à vous, j'ai compris que… » Et je les interromps en leur disant « Mais vous n'avez pas pu l'apprendre de moi, puisque je ne le sais pas. » En fait, vous vous rendez compte dans ces moments-là que vous n'avez pas dit cette chose à la personne, mais ce que vous avez dit a comme arrosé, je ne sais pas quelle métaphore utiliser, une plante qui poussait déjà en elle, mais qui attendait quelque chose dans la parole de l'autre pour que tout à coup émerge une idée, une plante que vous n'avez pas, encore une fois, plantée, mais qui était là et qui attendait une rencontre pour que cela surgisse. Et parfois, ça va très très loin. Les gens, et c'est propre à différentes fonctions, je pense que c'est vrai aussi pour les enseignants, les professeurs, les médecins, beaucoup de gens en qui on place notre confiance, il arrive qu'on soit évidemment dans une forme de surinterprétation de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que vous entendez des choses qu'ils n'ont jamais dites, mais que vous allez traduire dans votre vie. Je vais vous raconter une histoire horrible, mais qui m'est arrivée quand j'étais, après quelques années de rabbinat, j'étais encore toute jeune rabbin, il m'est arrivé quelque chose que j'oublierai jamais. Une dame est venue me voir dans mon bureau à la synagogue, et elle m'a dit... je suis venue vous voir il y a quelques années et depuis, j'ai suivi votre conseil et j'ai divorcé. Et donc, je lui dis, mais je vous ai vraiment dit de divorcer. Et là, elle m'a dit, pas comme ça, mais quand je vous ai parlé de mon mari, vous avez bâillé. Et à ce moment-là, elle me parle et me prend une envie terrible d'éternuer. Et je me dis, non! N'éternue pas. Mais bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est un exemple parmi d'autres, mais vous percevez parfois le pouvoir de... C'est même pas du malentendu, en fait, ça devrait s'appeler du surentendu, en fait, qui s'exerce en permanent. On sous-entend et l'autre surentend. C'est marrant que le sous-entendu, ça existe, et pas le surentendu en français. Il faudrait l'inventer, ce mot. Et en fait, je pense que ça oblige à une vraie... humilité, en fait, quand on se retrouve dans des positions peut-être comme les nôtres, de savoir que, encore une fois, quand j'enseigne que la côte d'Adam aurait pu être un à côté d'Adam, en aucune manière je ne suis en train de dire que il faut brûler les livres.
Oui, mais alors c'est, effectivement, c'est une expérience très... Quand on édite un texte, enfin, il m'est arrivé d'éditer le cours de Bergson, et avec, il y avait une transcription qui avait été faite par T.S. Eliot, le poète américain, et puis par d'autres auditeurs, en particulier Charles Dubos, et puis je fais comme ça trois ou quatre transcriptions parallèles du même cours. Et c'était chaque fois, je voyais pas où était le lieu commun où ces transcriptions pouvaient, les éditeurs pouvaient se retrouver. Et c'est ça qui est un peu impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes nombreux auditeurs ici, mais je ne sais pas, nous ne savons pas ce qui se passe, en fait, dans vos têtes. Et chaque fois, c'est autre chose qui se passe que ce que nous avons dit l'un et l'autre. Et nous-mêmes, savons-nous nous-mêmes ce que nous avons dit, c'est encore une autre histoire. À un moment, vous parlez, justement, vous avez dit tout à l'heure, vous avez quand même parlé d'intention première. Vous avez cité ce terme. Donc, vous ne refusez pas l'idée qu'il puisse y avoir quand même une intention première derrière le texte, derrière certains textes en tout cas, ou certaines paroles.
Oui, non, moi je pense que, et c'est peut-être en cela par exemple pour ce qui est des textes sacrés, que ma vision n'est pas orthodoxe. Moi je crois que ces textes ont été édités par des êtres humains, ça ne retire en rien leur sacralité, leur caractère de texte sacré, mais de mon point de vue, ils sont l'objet d'une édition, donc, et parce qu'ils ont été édités, ils ont une géographie et une histoire, et comme ils ont une géographie et une histoire, se pose toujours au lecteur la question de ce que tel ou tel terme voulait dire ou pouvait dire dans un contexte particulier. Mais tout ça nous ramène toujours à la problématique d'humilité de lecture. En fait, les gens qui s'imaginent ou qui clament qu'ils connaissent l'intention de l'auteur font preuve d'un sacré culot, d'une sacrée arrogance. Moi, je ne sais pas du tout ce que ces termes voulaient dire sous la plume ou dans la bouche de ceux qui les ont édités. Donc, en fait, je pense qu'il faut toujours être... capable, tenter d'être capable de cette humilité et de dire que les traductions qu'on en fait aujourd'hui sont forcément parcellaires et forcément infidèles. En fait, on ne fait que naviguer dans ce que Derrida a appelé une fidélité infidèle. En fait, on ne sait jamais dans quelle mesure on est, avec la meilleure intention du monde, en train de trahir un héritage. Alors, c'est peut-être pour moi plus facile d'en parler, parce que c'est vrai que dans la tradition juive, dans ma tradition, on encense beaucoup la rébellion, peut-être plus que dans une autre. J'ai écrit un livre sur cette question, Il n'y a pas de hasard, en utilisant beaucoup le personnage d'Abraham, que beaucoup d'entre vous connaissent, ou peut-être vous en souvenez de vos études de catéchisme, voilà, je sais pas, le personnage d'Abraham, il est fascinant dans la Bible parce que il incarne le patriarcat, c'est le patriarche par excellence, c'est la figure du père pour toutes les religions monothéistes. Mais quand on lit l'histoire d'Abraham, il y a un détail troublant, c'est que Abraham, qui naît en Chaldée, est connu pour entendre un appel qui lui dit, pars, quitte la maison de ton père et mets-toi en route. Et Abraham envoie bouler le monde de ses origines, le monde de son père, et se met en route. Et il y a là un paradoxe qui est philosophique passionnant, mais insoluble, qui est que les religions monothéistes se choisissent comme modèle de père quelqu'un qui a envoyé bouler le sien. Et donc, ça nous laisse, nous qui nous disons enfants d'Abraham, dans un questionnement insoluble et infini. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant d'Abraham ? Est-ce que ça veut dire d'obéir à sa doctrine en tout point, d'être dans une fidélité parfaite à son enseignement, ou est-ce que ça veut dire de lui faire ce qu'il a fait à son père, pour lui être pleinement fidèle, de prendre nous-mêmes une distance par rapport à la transmission d'un texte. En fait, cette distance des origines est inscrite dans nos origines. Cette invitation à être infidèle à la tradition est la plus ancienne de nos traditions. C'est paradoxal.
On pourrait presque terminer là-dessus. Je voudrais quand même juste une dernière question. Liée à votre expérience de rabbin, justement, d'exégèse des textes. Parce que ça, c'est irremplaçable. Personne d'autre ne peut le dire à votre place. Vous avez parlé de la lutte contre les fondamentalismes. Et que l'une des manières de dire, c'est effectivement de dire, et je trouve ça très juste, effectivement, que lorsque un tel exhibe tel verset de la Bible en disant, voilà, qui condamne l'adultère, l'homosexualité, il me dit, mais il y a tellement d'autres choses qui sont condamnées dans la Bible, et pourquoi vous-même, vous n'appliquez pas ce genre de préceptes? Donc on peut toujours être plus fondamentaliste. Je veux dire, on peut opposer au fondamentaliste l'idée qu'il peut être, il pourrait être encore plus fondamentaliste, excusez-moi, qu'il n'est. Donc c'est une manière de faire. Mais ma question, c'est, vous-même, dans votre pratique, puisque vous êtes dans le judaïsme libéral, est-ce que ça vous est arrivé dans des discussions avec des gens qui sont dans l'orthodoxie, mais je ne sais pas si vous reprenez ce terme précisément, de convaincre par le dialogue votre interlocuteur qu'il pouvait avoir une lecture plus différente du texte, qu'il enfermait le texte dans un sens trop précis. Est-ce que ça vous arrive régulièrement, ou est-ce que c'est rare, ou est-ce que c'est quelque chose?
Évidemment, ça m'arrive très souvent d'avoir ces conversations. De là à croire que je pourrais convaincre, j'en sais rien, il faudrait demander à d'autres si je les ai convaincus. Je pense que tous les fondamentalismes, toutes traditions religieuses confondues, ont des points communs, parmi lesquels un auteur, Amos Oz, que vous connaissez peut-être, l'a défini très très bien dans un de ses livres qui s'appelle « Comment guérir un fanatique ». Il dit que le propre des fanatiques, ou des fondamentalistes en général, et parfois même de ceux qui se reconnaissent dans une orthodoxie stricte, c'est de ne savoir compter que jusqu'à un. C'est-à-dire que dans leur monde, il n'y a pas de place pour le deux, pas de place pour une autre lecture, pas de place pour une autre vérité, et au-delà de ça, pas de place pour l'altérité en général, quels que soient les visages de cette altérité. Donc c'est très difficile de forcer le passage du 2 dans quelqu'un qui vit dans un monde du 1. Et puis l'autre point commun à de très nombreux fondamentalismes, c'est leur aversion de l'histoire avec un grand H. Je crois que les fondamentalistes sont ce qu'on pourrait appeler des chronophobes ou des historiophobes. En fait, ils ne supportent pas l'idée que la loi et la tradition et l'interprétation ait pu changer dans l'histoire. Et pourtant, c'est une vérité historique. Refuser de reconnaître l'évolution de la loi dans l'histoire, c'est se raconter des histoires. C'est en général s'inscrire dans un mensonge particulier, puisque, on le sait, toutes les traditions sont le fruit d'évolution. Et pourtant, au sein de tous les fondamentalismes, la phrase qui est la plus souvent répétée, vous la connaissez sans doute par cœur, c'est celle qui vous dit « C'est toujours comme ça qu'on a fait !» Le « c'est toujours comme ça qu'on a fait », moi, vous pouvez l'imaginer, je l'ai entendu un paquet de fois, sa déclinaison, c'est « on n'a jamais fait ça », son autre déclinaison. Alors, vous imaginez bien que moi, débarquant comme femme rabbin dans un monde où, c'est vrai, pendant longtemps, il n'y a pas eu de femmes, très souvent, j'ai eu droit à cet argument du « c'est jamais comme ça qu'on a fait » ou « on a toujours fait autrement ». Mais en fait, cet élément est toujours partiellement un mensonge, parce que nos pensées religieuses, si elles sont vivantes, c'est qu'elles sont le fruit de révolutions de pensée. Sinon, elles n'auraient pas perduré. Elles sont le fruit de pensées vivaces qui ont connu des révolutions. Qui dit connaître des révolutions, dit connaître des changements, des bouleversements. Et ce « il en a toujours été ainsi » est toujours et en toutes circonstances un mensonge mortifère. Mais il se décline dans toutes nos traditions religieuses. Vous voyez, par exemple, dans la chrétienté, quand on dit « il y a toujours eu le célibat des prêtres », c'est pas vrai, tout le monde sait que c'est faux. De la même manière que dans la tradition juive, quand on dit « c'est toujours comme ça qu'on a fait », c'est toujours faux, on a toujours évolué et pris en compte des temps et des contextes différents pour faire évoluer la pratique, le calendrier juif et tout ce que vous voulez. De la même manière que des gens qui, dans l'islam, vous disent que le voile, il en a toujours été ainsi. Aujourd'hui, les historiens de l'islam le savent, que c'est pas vrai, en fait, que les traditions constamment évoluent. Et donc, il faut être capable de renvoyer à tous nos fondamentalismes la puissance et la force des lectures historique, c'est-à-dire en fait valider en fait l'histoire et l'amour de l'histoire avec un grand H comme étant une puissance religieuse sacrée dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ce qui nous relie et ce qui nous permet de relire.
En tout cas, je crois que tous nos vœux, je pense, ici vous accompagnent dans cette tâche un peu herculéenne, je dois dire, à laquelle vous vous êtes appuyé. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.